Chapitre 2. Le confessionnal du Toulonnais. L'amitié. Chapitre au portrait. Il était environ 8 heures du soir et le boulevard du Temple, ce rendez-vous des plaisirs populaires qui reste dans la mémoire de tous les Parisiens, malgré le square lugubre qu'on a mis à la place, éclatait en mille bruits joyeux. La foule se pressait autour des théâtres dont l'enseigne promettait le rire ou les larmes, la foire des petits marchands allumait ses lanternes, et ceux-là même qui n'avaient pas 3 sous pour entrer chez le regretté Lazari trouvaient à passer leur soirée gratis devant la baraque de quelques successeurs de Bobèche. Quand le singulier personnage qu'on nommait Monsieur l'Amitié déboucha par la rue Charlot en quittant le logis du papa Koenig, le boulevard était à l'apogée de son allégresse quotidienne. Mais ses joies, paraîtrait-il, n'étaient pas l'affaire de notre homme à la houppelande juive, car il n'accorda pas même un regard aux fumeuses illuminations de la foire et tourna court dans la direction de la colonne de Juillet. Le coupé, au store fermé, fit comme lui et longea lentement le trottoir. Le costume choisi par Monsieur l'Amitié se rencontrait alors plus souvent qu'aujourd'hui dans le quartier du Temple. Les choses caractéristiques tentent à s'effacer de plus en plus, et les vieux vautours de la petite semaine s'habillent maintenant comme les casse-noisettes ordinaires. Les jeunes ont parfois leur tailleur aux environs de l'opéra. Monsieur l'Amitié pouvait donc continuer sa promenade sans exciter autrement l'attention des passants. Il allait d'un pas doux comme la peau de mouton qui rembourrait ses bottes et chantait à demi-voix cet air qui n'eut jamais rien de factieux « il pleut, bergère, ramenez vos moutons ». Mais tout en fredonnant, il songeait et sa rêverie ne ressemblait point à sa chanson. « Le colonel, pensait-il, m'a tracé mon chemin pouce par pouce, et je fais comme à l'ordinaire le métier de marionnette. Voilà longtemps que ça dure. Au commencement, je m'amusais à deviner ces manigances qui sont cousues de fil blanc, mais j'en ai trop deviné, et le bonhomme m'ennuie. Il serait temps à la fin que le vieux fît un peu de place aux jeunes, d'autant que les jeunes comme moi commencent à mûrir. Qu'est-ce que c'est que tout cet argent qui reste là-bas enterré dans un trou au fond de la Corse ? Et pourquoi continuer les affaires quand on pourrait rouler carrosse? C'est joli, les combinaisons du bonhomme. Ça a 3, 6, 9 compartiments, comme les baux de mon propriétaire, mais la liquidation ne vient pas, et tant va la cruche à l'eau. Il s'interrompit et descendit jusqu'au bord du trottoir, cherchant une place propice pour traverser la chaussée. Un sergent de ville qui marchait derrière lui dit tout bas « Bonsoir, monsieur Lecoq ». L'Amitié regarda tout autour de lui, avant de répondre « Bonsoir, bonhomme. On dit là-bas, à la préfecture, reprit le sergent, que vous chauffez une histoire pour cette nuit. « Fais ton ouvrage, répliqua brusquement l'Amitié, qui se lança sur le pavé boueux. « Ma parole, grommelait-il, il n'y a pas bavard comme ces hirondelles, on risque à chaque pas de se compromettre avec eux. Le père est bien tranquillement à faire son whist pendant qu'on s'éreinte. » Il a juré, ses grands dieux, que l'affaire de M. Rémy Darx, le juge d'instruction, serait sa dernière affaire, mais voilà 10 ans qu'il radote cela. Moi, je patiente et j'obéis, mais du diable si je comprends cette fois la mécanique du vieux, avec ses diamants et tout l'embrouillamini qu'il a imaginé alentour. Quand je l'ai interrogé, il m'a répondu, comme moi au sergent de ville, « Fais ton ouvrage ». Il s'arrêta sur l'autre côté du boulevard et conclut, « On fera l'ouvrage, papa, mais tout a une fin, et une fois l'ouvrage fait, je connais quelqu'un qui vous demandera son compte un peu bien. » Le bruit et le mouvement qui donnaient autrefois un aspect si particulier au vieux boulevard du Temple ne s'étendaient pas très loin. Chacun peut se souvenir que le château d'eau d'un côté, les environs de la Galiore de l'autre, étaient relativement des lieux déserts. On appelait la Galiote la dernière maison formant angle entre la rue des Fossés du Temple et le boulevard, parce que l'entreprise des bateaux-postes du canal de l'Ourcq tenait là ses bateaux. Derrière la Galiote et très près de l'endroit où la façade du cirque éclaire maintenant ce quartier jadis si misérable, s'ouvrait, au milieu de maisons décrépites et de masures à physionomie campagnarde, une ruelle étroite qui s'en allait rejoindre, après un long et tortueux parcours, la rue du Faubourg Saint-Martin à la hauteur de la mairie actuelle. Cette rue n'avait point de nom officiel, sinon au point où elle coupait le faubourg du Temple derrière les chantiers de Malte. Là, un écriteau l'intitulait rue du Haut-Moulin, mais partout ailleurs, on l'appelait familièrement le chemin des amoureux. La première maison du chemin des amoureux, en entrant par la rue des Fossés, était un café borgne, qui portait pour enseigne ce hardi calembour, estaminet de l'épicier. Cet établissement, entouré d'une détestable renommée, et dans lequel la police faisait de fréquentes razzias, avait sa façade tournée vers le boulevard à cause d'un coude brusque de la ruelle. Du lieu où M. Lamitié s'était arrêté, il pouvait voir à travers les rideaux rouges des deux fenêtres les lueurs de la salle de billard. On y jouait à la poule, selon la promesse d'un petit écriteau fabriqué à la main et placé sous la lanterne rouge qui disait aux passants du boulevard les prix du Gloria et de la demi-tasse, 10 et 20 centimes. Le billard, large comme une prairie, haut sur ses jambes et recouvert d'un tapis abondamment graisseux, était placé au milieu d'une salle assez spacieuse mais basse d'étage. Tout alentour, des tables de bois, soutenues par deux pieds seulement, s'appuyaient de l'autre côté sur une tringle appliquée contre le mur. Vis-à-vis de la porte d'entrée, il y avait un comptoir de marchand de vin où trônait une grosse mère à la figure violette, dont le bonnet, garni de vieux rubans rouges, laissait échapper des mèches de cheveux gris pommelés. Son nom était Madame Lampion. Elle avait ruiné des porteurs d'eau dans sa jeunesse. La poule, bien nourrie, comptait une douzaine de joueurs dont les costumes étaient sensiblement disparates. Quelques-uns portaient des blouses, d'autres des paletots plus ou moins déguenillés. D'autres, enfin, des habits de bon drap presque propres et assez cossus. La toilette semblait d'ailleurs être ici un élément de considération assez médiocre. Il y avait des haillons qui parlaient haut et qui obtenaient le sourire des dames, tandis que certaines redingotes tolérables gardaient la timidité du simple soldat admis à la table des fourriers. Le lion, car il y a partout un favori qui fait la mode, était un jeune gars de 20 à 25 ans, avec une toute petite casquette posée de travers sur une forêt de cheveux blonds frisés. Il jouait en bras de chemise, il avait des bottes et son pantalon froncé sur les hanches le serrait à la ceinture comme une robe de femme. C'était lui qui bloquait le plus de billes et qui plaçait le plus de mots. Son succès était complet, tous les hommes l'admiraient et toutes les dames le croisaient du regard. Cocotte, c'était le nom qu'on lui donnait, acceptait ses hommages comme une chose due et gagnait gaiement les sous de ses partenaires en guenilles. Deux personnes seulement dans toute l'assemblée paraissaient ne point s'occuper de lui. C'était d'abord Madame Lampion, qui, selon l'habitude, sommeillait majestueusement derrière son comptoir, et c'était ensuite un homme de taille herculéenne, dont la figure hâve et malheureuse se cachait à demi sous ses cheveux en désordre. Cet homme occupait la table la plus éloignée du centre, à droite de la porte, et un large vide existait autour de lui, à droite comme à gauche. Il s'était fait servir un petit verre qui restait intact. Depuis son entrée, il demeurait immobile, la tête enfoncée entre ses deux robustes mains. Les regards que les joueurs et la galerie jetaient à ce personnage étaient rares. Ils exprimaient à la fois de la répugnance et de la crainte. Cocotte seule lui avait dit bonjour lors de son entrée. « Bonjour, ma chef, comment ça va ?» Encore avait-il ajouté à voix basse. « Il y a du tabac, puisque voici le coyatier. Quand cet oiseau-là sort de son trou, méfiance, je parie que nous allons avoir du nouveau cette nuit. » Aussi, quand la porte s'ouvrit pour donner passage à la judaïque figure de M. Lamitié, il y eut un effet produit, comme on dit au théâtre. Les conversations se turent autour des tables, les billes s'arrêtèrent sur le billard, et de groupe en groupe, on aurait pu entendre ce nom prononcé à voix basse, Toulonnais Lamitié. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ajouta le jeune monsieur Cocotte en clignant de l'œil à la ronde. Tabac! Le nouveau venu referma la porte et dit d'une bonne grosse voix toute ronde, que nous n'aurions point reconnue car il parlait sur un autre ton dans l'échoppe du père Koenig. Bonsoir les petits vieux, et ça va-t-il comme vous voulez? Je passais ici en me promenant, j'ai eu l'idée d'entrer pour savoir un peu ce que vous pensez du cours de la bourse et des affaires politiques. Il y eut un éclat de rire un peu contraint, et quelques dames allèrent jusqu'à dire « Est-il farceur, ce monsieur l'amitié ?» L'homme à la taille d'athlète, qui était tout seul dans son coin, n'avait pas bougé, et Madame Lampion dormait toujours. L'amitié, en changeant de voix, avait changé aussi de tournure et de visage. Son allure était brusque, son regard hardi et franc. « Vous apportez de l'ouvrage, patron ?» demanda Cocotte d'un air soumis et presque caressant. « Savoir, bijou, savoir. Je ne vois pas ton ami Picpus, eh ? Il n'est pas venu ce soir. Il viendra, nous avons à causer. « Voilà, amour !» ajouta-t-il en secouant l'épaule massive de la limonadière qui ouvrit en sursaut ses yeux frangés d'écarlate. « Je paie une tournée de vin chaud à tout ce joli monde-là pour boire à la santé du roi de Prusse et de son auguste famille. » On rit encore, mais au milieu du rire, une voix lugubre se fit entendre. C'était l'homme du bout de la salle qui avait relevé la tête et qui disait « Monsieur Lecoq, moi je ne suis pas ici pour m'amuser. On m'a ordonné de venir et je suis venu. Dites-moi tout de suite ce qu'on veut de moi. »« Je n'en sais rien, » répondit sèchement l'amitié. « Chacun son tour, tu auras le tien. Bois un verre de vin chaud. Marchef, si tu veux, et prends patience. Ce soir, il y en a d'autres que toi qui ne sont pas ici pour s'amuser. » L'athlète reprit son immobilité chagrine et repoussa un verre plein que le garçon lui tendait. « Amour, » reprit l'amitié qui revint vers la grosse dame du comptoir, « fais allumer le confessionnal. » Et il ajouta en s'adressant à Cocotte, « Allons, petit, monte. C'est que, objecta le plus élégant des joueurs de poule, ma bille vaut 1,75 francs. Je t'en donne 2 francs, repartit l'amitié, et je l'offre à ce bon coyatier. « Nous ne jouons pas avec le marchef, » dirent les autres d'une seule voix. Celui-ci ne répondit point, mais ses yeux s'ouvrirent tout grands et se fixèrent tour à tour sur chacun de ceux qui avaient parlé. Il n'y eut pas un seul pour soutenir ce regard à la fois triste et terrible. L'amitié ricanait. « Quand M. Picpus va revenir, » ajouta-t-il en se dirigeant vers un escalier en colimaçon situé derrière le comptoir, « il faudra l'envoyer à confesse. » Cocotte le suivit. Dès qu'ils furent éloignés, au lieu de continuer la partie, joueurs et buveurs se massèrent en un seul groupe, et l'on se mit à parler tout bas. Le résumé de l'entretien aurait pu se traduire ainsi. « Cocotte, Picpus et le marchef, c'est une mécanique à grand spectacle. » L'endroit que ce bon monsieur l'amitié appelait son confessionnal était tout bonnement un cabinet particulier situé au premier étage. L'unique fenêtre de ce réduit, destinée à fêter l'amour en guenilles et Bacchus frelaté, donnait en face de la ruelle et avait vue sur le boulevard. Une double porte toute neuve et bien rembourrée faisait contraste avec l'indigence malpropre de l'ameublement. Ce luxe était dû à Toulonnet l'amitié qui avait fait de ce lieu une succursale de ses divers cabinets d'affaires, car c'était un homme considérablement occupé. Au moment où Cocotte passait le seuil, une voix cria du bas de l'escalier « Ne fermez pas, j'arrive à l'ordre !» L'instant d'après, Toulonnet était assis sur le vieux divan entre ses deux acolytes. Monsieur Picpus avait une dizaine d'années de plus que le joli Cocotte dont il était l'inséparable. Virgile, avant nous, avait mis cette différence d'âge entre Nisus et Euryale. L'apparence de Monsieur Picpus était celle d'un rat de chicane prétentieux et romantique. Il portait de longs cheveux, cachant le col d'un habit pelé. « Cause, lui dit l'amitié, le petit n'est pas de trop, il est bon qu'il sache un bout de l'histoire. » « Eh bien, commença Picpus d'un air important, notre jeune homme est à Paris. »« Parbleu, » fit Toulonnet, qui haussa les épaules. « Si tu veux, je vais te donner son adresse. »« Si vous en savez plus long que moi, » voulut dire Picpus. « Ça se pourrait bien, bonhomme, » interrompit l'amitié, « mais tu es là pour répondre et non pour te fâcher. As-tu vu la dompteuse ?»« Je la quitte. Elle a sa baraque place Valhubert devant le jardin des plantes et doit t'emballer après-midi pour la fête des loges. Se souvient-elle de Fleurette ?»« Je le crois bien, quand ce ne serait que par jalousie. »« Ah !» fit l'amitié avec une certaine vivacité. « Voyons ça. Ce vieux père a décidément de la corde de pendu plein ses poches. » J'ai donc payé le petit noir à la dompteuse, reprit Picpus, au café de la gare d'Orléans. C'est encore une femme agréable, quoiqu'un peu puissante. Il paraît qu'elle en tenait dans l'aile pour ce jeune Maurice, et que ça lui est même resté malgré la suite des temps. Vous savez, les dompteuses d'animaux féroces, c'est presque toujours des femmes romanesques. Il n'y a pas plus langoureuse que Madame Samayou, quoiqu'elle ait mis jadis son mari à l'hôpital d'un coup de boulet ramé, en jouant et sans malice, dont il est mort au bout de 5 semaines de souffrance. Elle fait des vers comme père et mère, sauf l'orthographe, et pince la guitare à l'espagnol. L'amitié frappa du pied. « Il ne s'agit pas de Madame Samayou, dit-il, mais de Maurice et de Fleurette. J'allais y arriver. » Quand on vint chercher la petite à la baraque de la part de ses parents pour la faire comtesse ou autre, et Madame Samayou dit que c'est encore là une drôle d'histoire, car l'enfant n'avait ni marque, ni signe, ni croix de ma mère, à l'aide desquelles il est facile d'effectuer une reconnaissance dans les règles. Quand donc on vint la réclamer, le jeune Maurice faillit devenir fou. Vous savez, ou vous ne savez pas, qu'il était le fils de parents comme il faut, et qu'il s'était engagé chez la Samayou pour le trapèze, la boule et la perche, à cause de Fleurette qui l'idolâtrait. La petite était en ce temps-là somnambule lucide, et manigançait la seconde vue. Ça a dû être un drôle de rêve tout de même, quand elle a vu le carrosse qui venait la chercher pour la mener dans un hôtel des Champs-Élysées, où elle a présentement des robes de soie et des cachemires. Ne vous impatientez pas, le jeune Maurice fit donc un coup de sa tête, malgré que Madame Samayou lui proposait de l'épouser, en lui laissant par contrat sa baraque, ses outils et ses bêtes. Il s'engagea soldat et partit pour l'Afrique. Qui est-ce qui pleura? Ce fut la dompteuse. Elle se serait même périe par le charbon sans un musicien de son orchestre qui lui adoucit momentanément sa douleur. Pour une chose racontée agréablement, murmura Cocotte, ça y est. Et la fillette? Demanda l'amitié, non sans donner de nouveaux signes d'impatience. J'allais y venir. Madame Samayou fut 5 ou 6 mois sans entendre parler de la fillette. Elle ne savait pas même où elle était, car on lui avait compté une jolie somme pour avoir Mademoiselle Fleurette. Mais une fois partie, ni vue ni connue, tout s'était fait dans le plus grand mystère. Un beau matin, à la foire de Saint-Cloud, Madame Samayou, après avoir pris sa chopine de blanc, allait porter le déjeuner à ses bêtes, lorsqu'elle vit entrer dans la baraque une brassée de taffetas, de jais, de fleurs et de dentelles. C'était Fleurette, qui se jeta à son cou en lui disant « Ah, où est-il? J'en mourrai si vous ne voulez pas m'apprendre où il est. » « Je vous dis qu'il en a !» s'écria l'amitié, qui claqua les mains l'une contre l'autre. « Il en a tout un rouleau !» Picpus, interloqué, le regarda avec étonnement, mais Cocotte expliqua « Le patron entend de la corde de pendu, va toujours. » « Ça lui importe donc, au vieux dont vous avez fait mention, poursuivit Picpus, que Mademoiselle Fleurette et le jeune Monsieur Maurice s'entradorent. Alors tout va pour lui comme sur des roulettes, car la petite demoiselle est revenue plus de 10 fois, au risque de se compromettre, et rien que pour parler de lui. » Il n'y a pas comme les dompteuses pour avoir de la sensibilité. Ça fendait l'âme de Madame Samayou de voir l'inclination mutuelle des deux jeunes gens, car elle s'intéressait à leurs amours comme si c'était une pièce de la gaieté, et elle a même fait là-dessus une romance qu'elle voulait me chanter à toute force. C'est elle qui a écrit au jeune homme en Afrique en lui disant « Revenez, on vous attend », mais sans lui révéler les mystères de l'aventure, parce que Mademoiselle Fleurette dit qu'il y a de grands dangers autour d'elle, et vous devez bien savoir si elle a tort ou a raison, patron. Par quoi, il n'est pas toujours si facile de revenir d'Afrique comme d'y aller, mais le jeune homme a fini par trouver la clé des champs, et Madame Samayou était tantôt dans tous ses états, car c'est aujourd'hui même que Monsieur Maurice doit venir la trouver pour savoir enfin ce que parler veut dire. Monsieur Picpus se tut, et l'amitié resta un instant pensif. « Voilà, murmura-t-il, j'essaie des carambolages absurdes, et les 3 billes du bonhomme reviennent toujours dans le petit coin. » « À ton tour, Cocotte, » ajouta-t-il brusquement. « Monsieur Picpus a fini, et il peut aller voir là-bas si nous y sommes. » Ce dernier obéit aussitôt, et dès que la double porte fut refermée, l'amitié reprit. « À nous deux, petit, si ce n'est pas toi qui vas parler, c'est moi, et tâche d'écouter comme il faut. Ta besogne n'est pas difficile, puisque tu as été dans la partie, mais il faut que la chose soit faite avec soin, c'est pour payer la loi. » Rue de l'Oratoire du Roule, numéro 6, tout près des Champs-Élysées, il y a un garni. Je vois ça, interrompit Cocotte. Deux corps de logis. J'ai connu une dame qui demeurait sur le derrière. On montait une cour en pente pour arriver chez elle, et sa fenêtre était à 5 pieds du carreau, parce que madame la marquise d'Ornans ne voulait pas qu'on regardât dans son jardin. C'est parfait, petit, tant mieux si tu connais les êtres. Il s'agit justement du second corps de logis où demeurait ta dame. Il y a là deux chambres au second, qui se touchent. Les numéros 17 et 18, dit encore Cocotte. Précisément. Tu vas prendre avec toi ta trousse et tu ouvriras la porte du numéro 17. Minute, objecta le jeune bandit. Le concierge m'a vu 20 fois. Tu arrangeras ta tête, ça te regarde. Mais s'il y avait quelqu'un dans la chambre numéro 17, il n'y aura personne. Quand un amoureux revient d'Afrique et trouve quelqu'un à qui parler de sa belle, est-ce que ce serait, commença Cocotte. La paix, fit monsieur, l'amitié, d'un ton péremptoire, et note sur ton calepin le nom que je vais te dire, monsieur Chopin. C'est un pauvre diable de musicastre qui court le cachet. Si le concierge te laisse passer, tu ne diras rien. S'il t'arrête, tu lui jetteras ce nom de Chopin. Il a classe le soir. Est-ce fait ? C'est fait. À la bonne heure. Te voilà donc entré au numéro 17. En crochetant la porte. Oui, mais à l'œuf et sans laisser de traces. Hein. Au milieu de la cloison de gauche, en entrant et tout auprès du lit, il y a une porte condamnée qui communique avec la chambre numéro 18. Nous te payons cher, petit, parce que tu es un des plus habiles serruriers de Paris. Il faut que tu nous fasses ici quelque chose de soigné. Tu dévisseras d'abord les deux verrous, puis tu briseras la serrure. Sans laisser de traces encore. Du tout, au contraire. Tu joues désormais le rôle d'un voleur novice. Tout doit être fait grossièrement, et les preuves d'effraction doivent sauter aux yeux. Seulement, et voilà où tu montreras ton talent, les choses doivent rester en place et paraître en bon état jusqu'à ce que quelqu'un touche la porte condamnée et s'y appuie la pousse. Tu comprends? Oui, répondit Cocotte qui souriait, je vous entends. Et après? Après, tu laisses un monseigneur sous une chaise, une pince dans la ruelle du lit, tu refermes proprement la porte d'entrée et tu files en te disant « Voilà une soirée qui m'a apporté un billet de 500 francs. Roule ta bosse et fais monter le marchef. » Quand Coyatier entra, monsieur l'amitié était debout. Il devint un peu pâle en voyant l'athlète refermer successivement les deux portes. Et certes, il y avait de quoi. Madame Samaillou n'avait point dans sa ménagerie de bête féroce comparable à celle-là. C'était un homme grand et gros, dont les membres massifs semblaient posséder une puissance extraordinaire. Et sa tête écrasée s'enfonçait entre deux épaules d'une largeur énorme. Il était laid, il était triste, il faisait peur. Pourtant, à le bien regarder, il n'avait point ce qu'on appelle l'air méchant, et le brutal ensemble de ses traits dégageait je ne sais quelle expression de douleur résignée. Il avait été soldat, bon soldat, et même sous-officier, comme son sobriquet de marchef l'indiquait. Il ne racontait son histoire à personne, mais on disait qu'il avait été trompé par une femme et qu'il l'avait tuée dans un transport d'amour fou. Il s'était enfui après ce meurtre, et on avait trouvé son rival couché sur une grande route avec la tête broyée. Quand il eut refermé les portes, il resta immobile auprès du seuil. « Bonhomme, lui dit l'amitié en essayant de prendre un ton léger, nous avons de la besogne, il va faire jour cette nuit. » Coyatier ne répondit point. « Tu n'es pas plus bavard qu'à l'ordinaire, reprit l'amitié, dont l'accent sera fermi, mais tu es un garçon de bon sens, et tu sais bien que nous t'avons mis une corde au cou une fois pour toutes. Tant que nous serons contents de toi, la justice aura beau faire et beau dire, tu n'as rien à craindre, mais le jour où tu désobéiras... « J'attends, interrompit le marchef avec rudesse. À la bonne heure, nous sommes d'accord. C'est rue de l'Oratoire du Roule, numéro 6. » « Écrivez l'adresse sur un bout de papier, dit le marchef. Je vas perdant la mémoire. » L'amitié fit ce qu'on lui demandait et poursuivit. « Tu pars tout de suite, car la route est longue. En entrant là-bas, tu diras au concierge, « Monsieur Chopin, pour la classe du soir. » « Écrivez cela, dit encore le marchef. » soit. Tu traverseras la cour. Monsieur Chopin demeure au 3e étage, sur le derrière. Tu monteras au 4e, où sont les greniers, et tu te cacheras dans le bûcher, à droite de l'escalier. À droite de l'escalier, répéta le marchef, c'est bien. Là, tu attendras pas mal de temps, car la classe de Monsieur Chopin finit à 10 heures et il faut arriver avant la sortie de ses élèves. D'un autre côté, la besogne n'est que pour 2 heures du matin.
2 heures du matin, répéta encore Coyatier.
Bon. Il y a une horloge à l'hôtel d'Ornans. Tu l'entendras comme si elle sonnait dans ton bûcher. À 2 heures juste, tu descendras 2 étages et tu frapperas doucement à la porte qui est à gauche, sous le carré du second.
Au second, dit le marchef, porte à gauche, ça y est.
On te demandera qui est là. Tu répondras le bijoutier.
Ah, fit Coyatier, le bijoutier.
Bon. Tu ouvriras et tu te trouveras en face d'un homme armé.
Armé, bien.
Pour entrer en matière, tu l'assommeras d'un coup de poing, car si tu montrais ton couteau, il te brûlerait la cervelle.
Coyatier fit un signe d'assentiment.
Ensuite, poursuivit l'amitieux, tu l'achèveras comme tu voudras.
Bien, et qu'est-ce qu'il faudra prendre?
Rien, sinon une canne à pomme d'ivoire que tu trouveras quelque part dans la chambre. Cherche vite, car il y aura quelqu'un dans la pièce voisine.
Eh bien, et quand j'aurai la canne à pomme d'ivoire,
tu t'en iras.
Par la porte?
Non. Il y a une fenêtre qui donne sur le jardin de l'hôtel d'Ornans, et le mur est couvert d'un treillage de haut en bas. Tu pourras descendre comme par une échelle. Une fois dans le jardin, tu prendras la première charmille à droite, au bout de laquelle est une porte qui te mettra dans les terrains de Beaujon.
Il faudra la forcer.
Voici de quoi l'ouvrir. Sans s'approcher du marchef, l'amitié lui jeta une clé enveloppée dans un billet de banque. L'athlète attrapa le tout à la volée. Il déplia le papier, regarda le chiffre du billet de banque et dit « Qu'y aura-t-il une fois la chose faite, monsieur Lecoq ?»«
Le double, répondit l'amitié. »
Le marchef tourna le dos, rouvrit les 2 portes et se retira sans ajouter une parole. L'amitié respira profondément. « J'ai toujours l'idée, murmura-t-il, que ce sanglier-là, quelque jour, me plantera son boutoir dans le ventre. Mais, à part cet inconvénient-là, quel meuble! On le ferait faire sur commande que jamais on en obtiendrait un pareil. » Il redescendit l'escalier en colimaçon et traversa de nouveau la salle basse de l'estaminet de l'épicier, où la poule était en pleine activité.
« Bonsoir, amour, dit-il à la grosse limonadière. Qu'est-ce que nous offririons bien à tous ces braves enfants-là? Une goutte de punch? Allons, va pour un punch, puisque le vin chaud est bu. »
Il déposa un double louis sur le comptoir et s'éloigna au milieu d'une acclamation générale. À quelques pas de là, au coin de la galiote, le coupé au store baissé l'attendait fidèlement. Il y monta en disant au cocher « Hôtel d'Ornans, Giovan, et brûlons le pavé !» Quand le coupé, après avoir traversé tout Paris au trot allongé de son cheval, eut franchi la porte cochère élégante de l'hôtel situé aux Champs-Élysées à droite de la rue de l'Oratoire du Roule, ce ne fut point le juif à la houppelante sordide et aux vieilles bottes fourrées qui en sortit. L'homme qui sauta sur le perron, propre et rasé de frais, était chaussé de bottes vernies et portait un habit noir tout chamarré de décorations étrangères. Il passa dans l'antichambre, la mine haute, en habitué de la maison, et fut annoncé ainsi, à la porte du salon, « Monsieur le baron de la Perrière !» Le cocher ne parut nullement surpris du miracle qui s'était accompli dans sa voiture et alla prendre place parmi les équipages rangés en ligne le long des trottoirs de la grande allée de l'Étoile. C'est un pays original qui ne ressemble nullement aux autres quartiers de Paris. D'abord, les rues ne s'y appellent point comme ailleurs. Louis le Grand, Bonaparte, aux Ours, de la Chopinette, Chilpéric ou Oberkampf. On a eu la bizarre idée de leur donner des noms de poètes, quoique ce soit très loin de l'Odéon. Il y a rue Balzac, la rue Chateaubriand, la rue Lord Byron. C'était un drôle de coin où l'alignement désormais nécessaire au bonheur des peuples et de monsieur le préfet de la Seine n'a pu encore pénétrer. On y monte, on y descend, on y tourne, comme si la baguette d'une fée avait mis cette petite montagne à l'abri des aplatissements universels. Paris passe à droite et à gauche par le boulevard Haussmann et par la grande avenue des Champs-Élysées, mais on dirait qu'il n'entre pas là. On y respire la paisible odeur des capitales étrangères. Tout le monde y est anglais, russe ou ottoman.
Les hommes qu'on voit sont grooms, les femmes schoolmistresses. On n'y vend rien, en effet, sinon des chevaux de sang noble et la pâle éducation des boarding houses. En 1838, on trouvait là de grands terrains vagues ayant appartenu à la folie Beaujon. Il n'était pas encore question de l'avenue Friedland. À part quelques pensions cosmopolites, une célèbre maison d'accouchement et trois ou quatre hôtels perdus dans de magnifiques jardins, il n'y avait de construction importante que sur les anciennes voies de communication, telles que la rue des Écuries, la rue de l'Oratoire et la grande avenue des Champs-Élysées. La principale de ces maisons était, sans contredit, l'hôtel habité par Madame la Marquise d'Ornans, veuve d'ancien pair de France et sœur d'un ministre de la Restauration. C'était une charmante maison de style italien, dont le principal corps de logis avait été bâti, dit-on, par le célèbre financier qui a laissé son nom à tout le quartier. Elle était beaucoup plus grande que le petit temple grec où mourut Delphine de Girardin de l'autre côté de l'avenue, mais l'œil allait involontairement de l'une à l'autre, attiré par une vague ressemblance de style. La blanche colonnade, élevée au-dessus d'un perron circulaire d'aspect monumental, était tout ce qu'on apercevait de l'hôtel d'Ornans. Des bosquets touffus, aidant l'inégalité des terrains, cachaient entièrement le surplus des constructions, qui était considérable. Il y avait, par derrière, un jardin qui eût presque mérité le nom de parc. Une passerelle entourée de lianes franchissait le chemin qui porte maintenant le nom de Balzac et prolongeait le gracieux domaine de la marquise à travers des pelouses veloutées, de grands massifs sombres et des corbeilles de fleurs jusqu'au mur du Bel Respiro. On démolit l'hôtel vers la fin du règne de Louis-Philippe et ses dépendances furent morcelées. Madame la marquise d'Ornans, née Julie de la Motte d'Andet, avait déjà franchi, à l'époque où se passe notre histoire, les dernières limites de la jeunesse. Elle se coiffait en cheveux gris et ne détestait point qu'on lui donnât le titre de femme politique. Elle avait aussi quelques prétentions au bel esprit. Sa politique, du reste, était plutôt une religion, et rarement son drapeau sortait de l'étui des veaux où elle le gardait au fond de son armoire. Elle croyait à Louis XVII. C'était un fait assez remarquable que l'allure uniformément paisible des divers personnages, imposteurs ou non, qui jouèrent le rôle des fils de Louis XVI. On en vit beaucoup dans la première moitié de ce siècle. Quelques collectionneurs soigneux en ont compté, je crois, jusqu'à une douzaine, mais tous ces prétendants, ainsi que leurs partisans, avaient, depuis le premier jusqu'au dernier jour, des physionomies débonnaires. Aucun d'eux, à ma connaissance, ne bâtit bien vivement le briquet pour allumer le flambeau de la guerre civile. On eût dit que leur ambition se bornait à réunir autour d'eux une petite église de gens riches et crédules qui pussent les appeler tout bas « Votre Majesté » en leur assurant bonne table, bon logis et chaude garde-robe. Ils furent pourtant, on doit le dire, malgré leur inertie, un des dissolvants les plus efficaces de ce grand parti royaliste qui, malade dès le temps de la Restauration, gardait encore sous Louis-Philippe une considérable vitalité. Aussi la sagesse bourgeoise du gouvernement de Juillet se gardait-elle bien d'apporter la moindre entrave au commerce pacifique des prétendus héritiers du roi martyr. Le mot d'ordre était donné d'un bout à l'autre de la France. Les Louis XVII pouvaient se promener dans le faubourg Saint-Germain et en province sans être inquiétés le moins du monde. Volontiers leur eût-on signé des feuilles de route avec secours pour faire pièce à l'opposition légitimiste. Tout ce qu'on exigeait d'eux, c'était de garder l'oriflamme sous leur chemise et de ne se faire sacrer qu'à huis clos dans le salon fermé de quelque vieux manoir ou dans la salle à manger d'un presbytère. Madame la marquise d'Ornans possédait une très belle fortune et nourrissait un Louis XVII qu'elle espérait bien voir un jour assis sur le trône de France, mais cela sans verser préalablement des flots de sang et grâce au seul travail de la Providence qui, tôt ou tard, dessille les yeux des peuples aveugles. Pour aider tout doucement la Providence et favoriser la restauration de son prince, Madame la marquise d'Ornans donnait en son hôtel des Champs-Élysées de fort jolies fêtes où elle recevait le meilleur monde. Nous ne saurions trop répéter que ces salons n'avaient aucune couleur politique. on y trouvait réunis des partisans du gouvernement et des orateurs de l'opposition, quelques écrivains, quelques membres du clergé, beaucoup de jolies femmes et bon nombre d'hommes à la mode, parmi lesquels nous devons citer un jeune magistrat de haut avenir, honoré de l'amitié du garde des Sceaux, et qui certes se fût éloigné de tout conciliabule suspect, le juge d'instruction Rémy d'Arx. Rémy d'Arx, malgré ses travaux sérieux et les avances qu'il appelait vers le monde officiel, était un fidèle habitué de l'hôtel d'Ornans. La marquise et son cercle intime l'accueillaient avec le plus vif empressement. Il était surtout le favori d'un homme vénérable qui trônait, dans la force du terme, à l'hôtel d'Ornans et qui partageait avec le prince les respects religieux de la marquise. C'était un vieillard de très grand âge, fort riche et de bonne maison, qui s'était fait de la bienfaisance une occupation, on pourrait presque dire une carrière. Il avait servi autrefois dans les armées des Bourbons de Naples et portait de préférence son titre militaire. On l'appelait le colonel Bozzo Corona. Au-dessous du prince et du colonel, un troisième personnage était admis fort avant dans la familiarité de la marquise. C'était un de ces gentilshommes dont il ne faut point fatiguer les parchemins, d'autant qu'il se livrait franchement à la pratique des affaires. Il avait nom de la Perrière et ne se fâchait point quand on passait sous silence son titre de baron. La marquise lui avait dès longtemps confié ses intérêts qu'il administrait avec une minutieuse probité. Nous ajouterons, mais c'est un grand secret, que monsieur de la Perrière, qui était un homme des plus répandus de France et de Navarre, avait mission, sans rien compromettre et en usant de la plus extrême prudence, de tâter les gens et de rassembler autour du prince un noyau de partisans discrets. On n'arrivait jamais tard chez la marquise, c'était la loi de la maison, et bien que 10 heures vinssent à peine de sonner, les salons commençaient à se remplir. Au côté droit de la cheminée, en marbre blanc rehaussé d'or, se tenait un groupe composé de monsieur de Saint-Louis, comme on appelait le prince, du colonel Bozzo et d'un vieux prêtre à cheveux blancs. Monsieur de Saint-Louis n'avait rien en lui de précisément remarquable, sinon sa personnalité même et l'intérêt qui ne peut manquer de s'attacher à une position romanesque. Il était gras et même un peu joufflu. Son nez aquilin, mais charnu et un peu court, avait précisément cette forme qu'on est convenu d'appeler bourbonienne. Son habit bleu semblait taillé sur le patron de celui que les gravures prêtent au comte de Provence de 1810 à 1815. Il portait les cheveux ramenés en arrière et rattachés en petite queue qui laissait au collet une légère trace de poudre. Ce genre de coiffure ne courait assurément plus les rues en 1838, mais vous en eussiez trouvé encore plus d'un spécimen dans les vieux hôtels du faubourg Saint-Germain. Le prêtre était un chanoine de la cathédrale de Paris, qui occupait ses vieux jours à rassembler les matériaux d'un livre intitulé « Histoire miraculeuse du dauphin, fils de Louis XVI ». Entre ces deux figures insignifiantes, la tête du colonel, énergique et fine, ressortait vivement. C'était un homme de taille moyenne, maigre, vêtu avec la simplicité qui convient à son âge, mais portant merveilleusement l'habit noir. Bien des gens croyaient qu'il plaisantait lorsqu'il se vantait lui-même d'avoir plus de 90 ans. Malgré ses rides, en effet, le dessin de ses traits restait net et harmonieux. Il avait dû être très beau et avait dû garder longtemps sa beauté. Maintenant encore, je ne sais quel charme restait autour de ce front d'ivoire garni de rares cheveux blancs. Il y avait dans son sourire une spirituelle bienveillance, et sous ses paupières, largement tombante, ses yeux bleus, presque toujours muets, comme ceux des magnétiseurs et des diplomates, retrouvaient parfois de pétulants éclairs. De l'autre côté de la cheminée, madame la marquise d'Ornans, ancienne jolie femme aux manières courtoises et presque caressantes, présidait un petit cercle de dames auxquelles se mêlaient quelques invités. Et très loin de là, auprès du piano ouvert, il y avait un groupe de jeunes filles qui semblaient attendre l'heure de sauter, car on dansait à l'hôtel d'Ornans depuis qu'était revenue d'Italie la nièce de madame la marquise, la belle, la délicieuse Valentine de Villanove. Nous n'avons point parlé encore de celle-là qui était la vie, qui était la joie, mais qui était aussi un peu le mystère de la maison. Un beau jour, Madame la Marquise avait dit à ses nombreux amis « Ma nièce est arrivée ». Et 8 jours après, Madame la Marquise avait donné son premier bal pour présenter sa nièce, qui était bien la plus ravissante créature du monde. Il en vient comme cela d'Italie, qui sont charmantes à éblouir, et le nom de Mademoiselle de Villanove est indiqué suffisamment son origine. Mais les connaisseurs, pourtant, ne trouvaient point en elle le type italien très nettement accusé. Il y avait de la joliesse française parmi sa beauté florentine et sous l'admirable fierté de sa paupière. Je ne sais quelle espièglerie parisienne couvait. Madame la Marquise expliquait cela du reste fort naturellement. Valentine était la fille de sa cousine Germaine, une Lamotte d'Andet, qui avait épousé en Italie monsieur de Villanove, dignitaire de la petite cour de Modène. Valentine était orpheline de père et de mère. Par un hasard assez heureux, ce comte de Villanove se trouvait être un assez proche parent de la famille Bozzocorona, et le colonel témoignait à Valentine une tendresse paternelle. Voilà tout ce qu'on savait de son histoire. On ne connaissait pas davantage la position de sa fortune, mais les arithméticiens de salon, qui vont supputant les probabilités de dot, cotaient la sienne dans les plus hauts cours. Madame la Marquise, en effet, manquant d'héritier direct, était maîtresse de sa fortune. Elle traitait Valentine comme une fille chérie, et, d'un autre côté, il était facile de voir que ce noble Crésus, le colonel Bozzo, comptait, en cas de mariage, dorer abondamment la corbeille. Rien ne pressait, Valentine n'avait pas 18 ans, et pourtant le nuage de ses prétendants commençait à se détacher à l'horizon. Il y avait de tout dans ce nuage qui couvrait déjà la moitié du ciel. Il y avait d'abord ce qu'on appelle des partis au faubourg Saint-Germain, un bataillon de ces braves petits gentilshommes que leur maman pousse et case. Le mariage étant une chose de règle comme la vaccine et la conscription, il y avait ensuite de purs calculateurs, de jeunes diplomates qui voyaient l'affaire sous ses deux faces sérieuses, l'argent et l'influence. Il y avait enfin les amoureux, de vrais amoureux, car il en reste quoi qu'on dise. Et n'en fut-il plus, Valentine, l'enchanteresse, avait tout ce qu'il fallait pour en ressusciter la race éteinte. Elle semblait plutôt petite, comme toutes celles dont la taille a d'exquises proportions, mais sa démarche se relevait en de gracieuses et juvéniles fiertés. Tout en elle était charme, et, comment dire cela, le charme variait de minute en minute, toujours attrayant et ne se ressemblant jamais à lui-même. C'était, dans toute la force du terme, une nature abondante, variable, pleine d'imprévus et de surprises. Elle avait tour à tour et presque au même instant la molle indolence de la jeune fille créole et ces explosions de vivacité féminine qui éblouissent l'esprit, qui étonnent le cœur comme les paupières cherchent et fuient l'éclat trop brillant d'un feu d'artifice. Elle était gaie, mais rêveuse. Il y avait d'étranges tristesses au milieu de ses joies d'enfant. Alors l'éclair de ses prunelles se voilait, et ses grands yeux bleus, limpides sous l'arc de ses sourcils noirs, semblaient chercher dans le vague quelque chose qu'elle seule voyait, quelque chose qui était le secret de son âme à la fois candide et impénétrable. Dès les premiers jours, ses compagnes nouvelles, qui pourtant s'étaient prises bien vite à l'aimer, l'avaient déclarée capricieuse. Plus tard, son histoire, que chacune espérait connaître avant les autres, était restée incomplète comme un livre auquel manqueraient de nombreuses pages. Ces demoiselles avaient essayé loyalement d'en combler les lacunes, et il était arrivé que plusieurs d'entre elles, en rencontrant la même pensée, avaient mis à la place du mot « caprice » cet autre mot de « souci ». Les romans vont et viennent dans notre monde, qui pourtant a la prétention d'être positif. Et quand on commence à voir clair à travers les brumes de l'adolescence, que ne peut-on expliquer par ces vagues échos du passé qu'on nomme les souvenirs? Cette belle Valentine avait peut-être des souvenirs, pourquoi non? Mais quand il arrivait à ses compagnes trop curieuses de poser leur doigt indiscret sur quelques feuillets de sa rêverie, elles reculaient confuses ou déroutées devant un clair regard de la Vierge, si un franc éclat de rire ne les mettait pas en déroute. Aussi, parmi ces demoiselles, y avait-il des impatientes qui disaient déjà que Valentine était une énigme. Il arrive parfois que le mot de ces ravissantes énigmes est tout bonnement un nom. Parmi ces demoiselles, quelques-unes n'étaient pas sans connaître le moyen de deviner les rébus. Elles cherchèrent le nom, et il arriva un jour qu'elles crurent tout à la fois avoir fait la grande découverte. Le nom que ces demoiselles soupçonnaient de pouvoir bien être le mot de l'énigme appartenait à un jeune magistrat dont nous avons déjà fait mention et qui se promenait en ce moment dans la serre contiguë au salon avec la belle comtesse Corona, petite fille du colonel Bozzo. C'est ici le chapitre au portrait. Nous ne ferons pas celui de Francesca Corona, noble et malheureuse créature dont nous avons dit ailleurs la bizarre histoire. Elle n'a point de place dans ce drame, mais il nous faut peindre au contraire son cavalier, Monsieur Remy d'Arx, qui est un de nos principaux personnages. C'était un homme de 30 ans, à la taille haute, élégante, mais un peu raide. La gravité dans la profession qui était celle de Monsieur d'Arx peut passer quelquefois pour un masque, ou tout au moins pour un accessoire nécessaire à l'uniforme. Mais il suffisait de jeter un regard sur la belle figure de Remy pour éloigner toute idée de parti pris théâtral. Son caractère sautait aux yeux. C'était une intelligence laborieuse et forte, mariée à une âme sincère jusqu'à la naïveté. Il était aimé, généralement, et universellement estimé, malgré les chances de grande fortune judiciaire que l'opinion publique lui accordait. Il ne faut pas toujours juger l'importance spécifique d'un homme par le grade qu'il occupe. Tel général, qui a eu ses épaulettes comme les poires mûrissent, donne souvent des ordres à de simples officiers qui ont leur valeur notée et qu'on mettra en lumière, viennent le premier coup de canon. Les supérieurs de Remy d'Arx n'ignoraient point que le ministre avait l'œil sur lui, et ils le traitaient en conséquence. La ressource des envieux était de dire qu'il appartenait à une puissante famille de robe et qu'il arriverait en dépit de tout par cette sorte de droit de succession qui, malheureusement, n'est pas sans influence sur les fortunes judiciaires en France. Il y avait du reste une circonstance qui permettait au prophète de prédire à coup sûr en donnant une grande valeur au titre que Remy d'Arx aurait pu faire valoir pour son avancement. Son père, procureur général près d'une des cours du Midi, était mort violemment dans l'exercice de ses fonctions et en quelque sorte sur la brèche. C'était une très dramatique histoire, mais de tout cela on peut dire que le jeune juge d'instruction s'inquiétait médiocrement. Dans tout le tribunal de la Seine, il était peut-être l'homme que la question d'avancement personnel préoccupait le moins. Jamais il n'avait rien sollicité. Il remplissait ses fonctions avec zèle parce que sa vocation de magistrat était très fortement développée. Il allait droit son chemin parce qu'il était l'honneur même, mais loin de chercher les occasions de se pousser, il semblait fuir le monde officiel et employer les heures que ses fonctions laissaient libres à un travail opiniâtre dont nul ne connaissait bien la nature. C'était encore là, dira-t-on, un moyen de parvenir. Tel ouvrage de doctrine ou de jurisprudence bien fait, bien appuyé et lancé à l'heure propice est un outil excellent pour percer le trou par où les réputations sérieuses jaillissent parfois hors de terre comme des champignons. Mais le travail de Remy d'Arx, quel qu'il fût, ressemblait un peu à celui de Pénélope. Il se continuait sans cesse et ne s'achevait jamais. À propos de ce travail, le meilleur ami de Remy d'Arx, l'excellent colonel Bozzo Corona, laissait volontiers deviner qu'il en savait un peu plus long que les autres. Quand on l'interrogeait à ce sujet, il souriait bonnement, caressait la boîte d'or émaillée sur laquelle l'empereur de Russie lui avait donné son portrait, et murmurait tout doucement « Il y avait longtemps que personne ne cherchait plus la pierre philosophale ». Mais il ajoutait tout de suite, en prenant un air sérieux, « Il ira loin, fiez-vous à moi. Et s'il la cherche, je ne connais au monde que lui pour être capable de la trouver. » Et en vérité, ce beau Remy d'Arx, avec ses traits pâles, son regard inspiré, son grand front déjà dégarni de cheveux, sous lequel semblait lutter silencieusement la passion et la pensée, avait un peu la physionomie que notre imagination prête aux mystiques ouvriers du grand œuvre. Malgré son apparente gravité, l'esprit d'aventure n'était pas mort en lui. Il avait eu une jeunesse très chaude. On lui connaissait au moins un duel où il avait poussé la bravoure jusqu'à la folie. Il était doux comme une femme, mais tous les chevaliers sont ainsi, et sous les plis de sa toge, peut-être y avait-il encore une épée. Nous ajouterons qu'indépendamment des promesses de son avenir, M. Remy d'Arx avait 60 000 livres de rente. Avant l'arrivée de Valentine, plus d'une parmi les belles dames qui fréquentaient l'hôtel d'Ornon avait tenté peut-être de nouer ses couleurs à l'épaule de ce magnifique berger. Plus d'une mère aussi l'avait montré à sa fille d'un droit discret en prononçant ces paroles utiles qui ouvrent les yeux de la Vierge sans maculer entièrement la blancheur de sa robe. Aucun résultat n'avait été obtenu. Remy passait doux et indifférent dans ce monde où l'attirait la marquise elle-même, ancienne amie de sa mère, le colonel Bozzo, pour qui il professait un respect filial, et cette charmante comtesse Corona, qu'il aimait comme une sœur. Au premier moment, on put croire que la présence de mademoiselle de Villanove ne modifierait point la situation, du moins en ce qui concernait Remy d'Arx. Aux yeux de ce petit monde dont il était le favori, son seul défaut était un tantinet de sauvagerie. On crut s'apercevoir qu'il devenait un peu plus sauvage, mais ce fut tout. Le jour où l'une de ces demoiselles découvrit que Valentine, pour employer la locution si prudente et si expressive du bon monde, avait « remarqué » M. Remy d'Arx, la grande nouvelle fut naturellement publiée dans tous les petits coins, et il y eut bien des sourires moqueurs échangés en tapinois, car la froideur de Remy était chose notoire. On aurait pu même aller plus loin. Ses visites à l'hôtel devenaient de plus en plus rares, et c'est à peine si, dans ces occasions, il adressait à mademoiselle de Villanove les paroles exigées par la simple politesse. Mais si clairvoyantes que soient généralement ces demoiselles, quand il s'agit d'intrigues mignonnes et de petits romans à la douzaine, elles sont sujettes à se tromper aux manifestations inconnues de cette chose si rare, un grand, un puissant amour.